Chapitre 11. Dès le lendemain, un panier rempli de miches de pain dans les bras, Nietzsche avait accompli sa première mission pour la cause. En compagnie d'autres membres de la confrérie, elle était chargée de distribuer une pitance inespérée aux indigents d'un des quartiers les plus pauvres de la ville. Pour l'occasion, sa mère l'avait forcée à mettre une jolie robe rouge plissée et des bas blancs ornés de broderies écarlates. Très fière d'œuvrer enfin pour le bien, la fillette avait arpenté les rues jonchées de détritus en pensant au jour merveilleux où l'apparition d'un ordre nouveau mettrait à tout jamais fin à la misère et au désespoir. Quelques personnes avaient accepté son pain avec un sourire et de sincères remerciements. D'autres s'en étaient emparées sans un mot ni un geste de gratitude. La majorité des déshérités, à sa grande surprise, avaient grogné que le pain était rassis, sûrement pas très bon et insuffisant pour nourrir toute une famille. Refusant de se laisser décourager par ces réactions, Nietzsche avait débité le petit discours que sa mère lui avait fait apprendre par cœur. Tout cela était la faute du boulanger. Travaillant uniquement pour se remplir les poches, il bâclait les fournées que lui achetait la confrérie parce qu'il était obligé d'appliquer une ristourne. « Il était injuste d'agir ainsi », avait expliqué Nietzsche, « mais ça changerait dès que la confrérie de l'ordre aurait pris le pouvoir pour le bien du peuple. » Alors que Nietzsche remontait une rue, un homme l'avait prise par le bras et tiré dans un passage latéral qui puait autant qu'une décharge publique. Refusant la miche qu'elle lui proposait, il lui avait réclamé des couronnes d'or ou d'argent. N'ayant pas un sou sur elle, Nietzsche s'était excusé de ne rien pouvoir faire pour le malheureux. Rouge de colère, il avait profité de sa force pour la fouiller, glissant les mains jusque sous sa culotte dans l'espoir d'y trouver une bourse. Très mécontent de ne rien découvrir, il lui avait enlevé ses chaussures. Comme elles ne contenaient pas l'ombre d'une pièce de monnaie, il s'était vengé en les jetant sur un tas d'immondices. Avant de partir, il avait frappé deux fois Nietzsche au ventre, puis s'était éloigné en la laissant gémir de douleur sur les pavés et elle s'était écroulée. Nietzsche était parvenu à se traîner jusqu'au caniveau pour restituer le contenu de son estomac. À l'entrée de la ruelle, quelques passants s'étaient arrêtés afin de la regarder vomir. Sans esquisser un geste pour l'aider, ils avaient continué leur chemin en accélérant le pas. Deux ou trois hommes étaient entrés dans le passage pour récupérer des miches de pain avant de détaler sans demander leur reste. Des larmes aux yeux, le souffle coupé, Nietzsche avait tristement baissé les yeux sur sa jolie robe constellée d'ignobles taches. Quand elle était rentrée chez elle, les yeux encore rouges, sa mère lui avait souri. « Parfois, la détresse de ces pauvres gens m'arrache aussi des larmes », avait-elle fièrement déclaré. Nietzsche n'avait pas pu taire la vérité. Un méchant homme s'en était pris à elle pour la détrousser et il avait même été jusqu'à la frapper. « N'aie plus jamais l'outrecuidance de juger les gens !» avait crié sa mère en la giflant, sur la bouche là où ça faisait le plus mal. « À ton âge, comment peut-on être présomptueux à ce point ?» Nietzsche s'était pétrifié, blessé par la rebuffade plus que par la violence du coup. « Maman, il a été très cruel, il m'a touché partout puis frappé très fort !» Une nouvelle gifle plus violente que la première avait coupé le souffle à Nietzsche. « Je ne permettrai pas que tu m'humilies devant frère Narev et mes amis en tenant des discours pareils. Tu m'entends? Tu ne sais pas pourquoi ce pauvre homme s'est comporté ainsi. Ses enfants sont peut-être malades et il cherche de l'argent pour les faire soigner. En voyant une sale petite gosse de riche, il a dû craquer, furieux parce que les siens sont dans la misère alors que d'autres s'exhibent dans des robes hors de prix. Tu ne sais rien du fardeau que porte cet homme. » Quand cesseras-tu de juger les gens sur leurs actes, au lieu de prendre le temps de connaître leurs motivations? Mais je pense... » Une troisième gifle, presque un coup de poing, avait forcé Nietzsche à ravaler ses paroles. « Tu penses? La réflexion est l'acide qui ronge insidieusement la foi. Ton devoir est de croire, pas de penser, car l'esprit d'un être humain est inférieur à celui du Créateur. Tes idées et toutes celles qui tournent dans le cerveau des gens n'ont aucune valeur. L'humanité est méprisable. Quand le comprendras-tu enfin? Une seule chose compte. L'amour et la bonté que le Créateur a quand même instillés dans l'âme des pécheurs. Tu dois te laisser guider par ton cœur, pas par ta raison. La foi est le seul chemin qui mène au salut. » « Alors que dois-je faire ? » avait demandé Nietzsche en ravalant ses larmes. « Avoir honte que l'injustice de ce monde pousse de pauvres innocents à mal se comporter. À l'avenir,
Tu devras tenter d'aider les gens qui te rudoient comme cet homme, parce que tu en as les moyens, alors qu'eux sont désarmés. N'as-tu pas saisi que c'était ton devoir ?
Ce soir-là, quand son père était entré dans sa chambre sur la pointe des pieds pour voir si elle était douillettement couchée, Nietzsche lui avait pris la main pour la serrer contre sa joue. Même s'il était un pêcheur, comme le disait sa mère, elle ne se sentait jamais mieux que lorsqu'il venait s'asseoir au bord de son lit pour lui caresser les cheveux. Les semaines suivantes, Nietzsche avait continué à œuvrer pour la confrérie et commencé à mieux comprendre les problèmes des pauvres. À première vue, la situation était désespérée et tout ce qu'elle faisait ne l'améliorait pas d'un iota. Selon frère Narev, ça prouvait simplement qu'elle ne s'investissait pas assez dans sa mission. À chaque échec, avait-il dit, elle devait se jurer de produire encore plus d'efforts la prochaine fois, comme le lui conseillait sa mère. Après quelques années passées à militer pour la confrérie, Nietzsche avait osé demander de l'aide à son père. « Papa, avait-elle dit un soir à table, j'essaie de secourir un homme qui a 10 enfants et pas de travail. Tu voudrais bien l'embaucher ? »
« Pourquoi ferais-je ça ? »
« Eh bien, parce qu'il a 10 bouches à nourrir. »
« Peut-être, mais quel est son métier ? Pourquoi devrais-je lui proposer un poste ? » ?»«
Parce qu'il en a besoin. » ?»«
Ma chérie, j'emploie des ouvriers spécialisés. Avoir 10 enfants ne veut pas dire qu'on sait travailler les métaux. Quelle est sa qualification ? » ?»«
S'il en avait une, papa, il ne serait pas sans emploi. Est-il juste que ses enfants meurent de faim parce que personne ne veut lui donner une chance ?»«
Une chance ? Laquelle, puisqu'il ne sait rien faire ?»
Dans une entreprise comme la tienne, il doit bien y avoir du travail pour lui. » Impressionné par la détermination de sa fille, Howard avait réfléchi en tapotant du bout de l'index le manche de sa cuillère.
« Eh bien, j'aurais besoin d'un homme de plus pour décharger les chariots. »
« C'est impossible parce qu'il a très mal au dos. Depuis des années, ce handicap l'empêche de gagner sa vie. »
« Mais pas de faire 10 enfants ?»
avait demandé Howard le front soudain plissé. Décidé à œuvrer pour le bien, Nietzsche avait courageusement soutenu le regard désapprobateur de son père.
« Pourquoi es-tu si intransigeant, papa ? Cet homme a besoin d'un travail et tu peux lui en donner un. Ses enfants doivent manger et porter des vêtements convenables. Veux-tu priver un père de famille des moyens de survivre parce que personne ne lui a jamais tendu une main secourable ? Ton or t'empêche-t-il de voir le malheur tout autour de toi ?
Mais je...
Faut-il toujours que tu penses à toi et jamais aux autres ? Le monde tourne-t-il autour de ta seule personne ?
J'ai une entreprise et...
À quoi sert une entreprise, sinon à faire travailler ceux qui en ont besoin ? Ne vaudrait-il pas mieux que cet homme ait un emploi plutôt que de s'humilier en tendant la main dans les rues ? C'est ce que tu veux ? Qu'il y ait plus de mendiants que d'ouvriers ? Pourtant, tu parles sans arrêt de la valeur du labeur dans la vie d'un homme. »
Nietzsche bombardait son père d'arguments sans lui laisser une seconde pour répondre. Sa mère avait souri en la voyant réciter des mots qu'elle avait appris par cœur et employer la méthode que prônait frère Narev. Prendre un exemple, même discutable, le développer sans laisser le temps à son interlocuteur d'émettre des objections et dégager des principes généraux à partir d'une situation si particulière qu'elle n'était représentative de rien.
« Pourquoi es-tu cruel avec les plus faibles ?» avait continué Nietzsche, impitoyable. « Ne peux-tu pas songer à aider les autres au lieu de ne penser qu'à l'argent ? Si tu engages cet homme, cela t'acculera-t-il à la ruine ? »
Howard avait regardé Nietzsche comme s'il la voyait pour la première fois. Le souffle coupé par cet assaut en règle, il avait ouvert la bouche, mais sans réussir à émettre un son. Sa femme buvait du petit lait, bien entendu.
« Eh bien, avait enfin dit Howard, je suppose que... »
Reprenant sa cuillère, il avait baissé les yeux sur sa soupe.
« Qu'il vienne me voir, je lui trouverai quelque chose. »
Nietzsche avait rayonné, le cœur gonflé de fierté et d'un tout nouveau sentiment de puissance. Elle n'avait jamais supposé que déstabiliser son père pût être si facile. Avec un peu de bonté, simplement, elle avait réussi à lui faire oublier son égoïsme fondamental. Sans finir son dîner, Howard s'était levé pour quitter la table.
« Il faut que j'aille voir quelque chose au travail. »
En évitant de regarder sa fille ou sa femme, il s'était dirigé vers la porte.
« Je viens de me souvenir, une tâche urgente à terminer. »
Dès qu'elle avait été seule avec Nietzsche, sa mère s'était empressée de la féliciter.
« Je suis contente que tu aies choisi le chemin du bien au lieu de suivre ton père sur celui de la perdition. Tu ne regretteras jamais de laisser l'amour des autres te dicter tes actes, parce que le Créateur te sourira jusqu'à la fin de tes jours. Nietzsche était sûr d'avoir bien agi. Pourtant, un souvenir la hantait. Cette fameuse nuit, des années plus tôt, où elle avait serré si fort la main de son père contre sa joue. Howard avait fini par engager le protégé de sa fille, et le sujet n'était plus jamais revenu dans la conversation. Très prise par sa croisade pour le bien, Nietzsche s'était éloigné de son père, trop absorbé par ses affaires pour passer de longs moments à la maison. Nietzsche aurait aimé revoir de la tendresse dans les yeux d'Howard, mais il fallait bien renoncer à certaines choses quand on grandissait. Le printemps suivant, alors que Nietzsche venait de fêter son 13e anniversaire, une étrange visiteuse était passée voir sa mère. Revenant d'une de ses missions pour la confrérie, la jeune fille avait eu des frissons glacés dès que la femme avait posé les yeux sur elle. « Nietzsche, ma chérie, je te présente sœur Alessandra. Elle vient du palais des prophètes à Tanimura. » Plus vieille que la mère de Nietzsche, la femme portait ses cheveux châtains en chignon. Ordinaire, sans être laide, elle avait cependant un nez un peu trop grand qui jurait avec le reste de son visage. « Avez-vous fait bon voyage, sœur Alessandra ?» avait demandé Nietzsche après avoir esquissé une révérence. « Tanimura est assez loin d'ici. »«
3 jours de cheval ne sont pas une affaire. Je t'imaginais moins fluette, ma petite. Si jeune et déjà accablée de tant de responsabilités, tu veux bien t'asseoir un moment avec nous ?»«
Vous êtes une sœur de la confrérie ?» avait demandé Nietzsche un peu perdu.
« De quoi parles-tu donc ?»«
Nietzsche, ma chérie, Alessandra est une sœur de la lumière. » Stupéfaite, Nietzsche s'était laissé tomber sur une chaise. Les sœurs de la lumière avaient le don, comme sa mère et elle. À part ça, elle ne savait pas grand-chose d'elle, sinon qu'elle servait le Créateur. Mais il y avait déjà de quoi la bouleverser. Qu'une femme comme elle leur rende visite était presque aussi impressionnant que de se tenir devant frère Narev. Sans savoir pourquoi, Nietzsche se sentait en danger. Comme si... En plus de tout, elle avait du pain sur la planche et pas de temps à perdre. Il y avait des dons à collecter, comme presque tous les jours. Parfois, des bénévoles plus âgés l'accompagnaient. En d'autres occasions, il la laissait y aller seule parce qu'une jeune fille obtenait de meilleurs résultats quand il s'agissait de faire honte à des nantis égoïstes. Ces hommes et ces femmes-là, qui dirigeaient tous des affaires, savaient qui elle était. Très gênée, ils lui demandaient invariablement des nouvelles de son père. Appliquant la stratégie mise au point par la confrérie, Nietzsche répondait qu'il serait ravi d'apprendre que des confrères à lui se montraient généreux avec les déshérités. Peu à peu, la plupart de ses capitaines d'industrie avaient acquis un certain sens civique. Ce jour-là, Nietzsche devait également faire une tournée de distribution de médicaments. Dans les quartiers pauvres, les enfants étaient sans cesse malades, et la question des vêtements se reposait tout le temps puisqu'ils grandissaient à toute vitesse. Les dons ne suffisant plus, Nietzsche tentait de recruter des couturières bénévoles. Il y avait aussi la question du logement, un vrai casse-tête. Certaines familles étaient à la rue, et d'autres s'entassaient dans des trous à rats. Mais comment convaincre les riches de mettre des bâtiments à leur disposition? Nietzsche s'y efforçait, sans grand succès jusque-là. Elle s'occupait également de fournir des cruches aux femmes contraintes d'aller chercher de l'eau à la fontaine. Ce jour-là, elle avait prévu de passer voir le potier. Enfin, son pire souci, il y avait la délinquance. Beaucoup d'enfants d'une dizaine d'années ou plus volaient pour survivre, et ils se faisaient régulièrement attraper. D'autres formaient des bandes qui se battaient entre elles, et une infime minorité maltraitait les gamins plus jeunes, les battant parfois à mort. Nietzsche plaidait en faveur de ces gamins, parce que leur comportement, assurait-elle, avait pour cause la misère et le sentiment de n'avoir pas d'avenir. Si son père consentait à en engager quelques-uns, la situation avait une chance de s'améliorer. Les problèmes s'accumulaient et il n'y avait aucun espoir que ça cesse. Plus la confrérie aidait de gens et plus il semblait y avoir de nouveaux candidats à l'assistance. Au début, Nietzsche avait pensé pouvoir en finir avec tous les malheurs du monde. Ces derniers temps, elle ne se sentait plus à la hauteur de la tâche. C'était sa faute, elle le savait, et devrait simplement travailler davantage.
« Sais-tu lire et écrire, ma petite ?» avait demandé sœur Alessandra.
« Pas vraiment. » Quelques noms seulement. J'ai tant à faire pour ceux qui ont eu moins de chance que moi dans la vie. Leurs besoins passent avant mes désirs égoïstes.
La mère de Nietzsche avait souri de fierté.
On raconte que tu es un esprit du bien incarné. avait dit sœur Alessandra très émue.
« J'ai beaucoup entendu parler de ton dévouement.
Vraiment ?»
D'abord très fier, Nietzsche s'était vite rembruni. Si méritoire que fussent ses efforts, ils ne servaient quasiment à rien, et de toute façon, comme disait sa mère, l'orgueil était un péché.
« Mais vous savez, sœur Alessandra, ça n'a rien d'extraordinaire. Les gens qui souffrent sont dignes d'intérêt, pas moi. Ce sont eux qui me donnent la force d'agir. »
Une fois encore, la mère de Nietzsche avait souri d'aise.
« As-tu appris à utiliser ton don, mon enfant ?»
avait demandé la sœur.
« Maman m'a enseigné quelques petites choses comme soigner des affections bénignes. Mais il serait indigne d'étaler mes pouvoirs devant ceux qui en sont dépourvus, donc je m'efforce d'y recourir le moins souvent possible. »
« En attendant, j'ai un peu parlé avec ta mère. Elle t'a très bien élevé, sais-tu ? Mais nous pensons que tu donnerais le meilleur de toi-même si tu te consacrais à une mission plus élevée. »«
Eh bien, s'il le faut, je pourrais me lever un peu plus tôt, mais je dois d'abord aider les pauvres et j'aurai peu de temps à consacrer à cette nouvelle tâche. Ne croyez surtout pas que je cherche à me faire plaindre, mais j'espère que votre mission n'est pas trop urgente parce que je suis très occupée. »
Sœur Alessandra avait eu un étrange petit sourire désabusé.
« Tu m'as mal compris, Nietzsche. Nous voudrions que tu viennes continuer ton œuvre avec nous au Palais des Prophètes. Au début, en tant que novice, bien entendu. Mais un jour, tu deviendras une sœur de la lumière et tu pourras mener à son terme la mission que tu t'es assignée. »
Nietzsche avait senti son sang se glacer.
Elle s'occupait de tant de gens dont la vie ne tenait qu'à un fil. Il y avait aussi dans la confrérie des amis qu'elle aimait de tout son cœur. De plus, elle refusait de quitter sa mère, et son père même, s'il n'était pas un homme de bien. Il se comportait mal, il fallait l'admettre, mais jamais avec elle. Si insensible et cupide qu'il soit, il venait encore de temps en temps l'aborder dans son lit le soir et lui tapoter gentiment l'épaule. Si on lui en laissait le temps, elle était sûre de revoir un jour ses étincelles d'amour et de mélancolie dans ses yeux. Pour une raison qui la dépassait, elle en avait désespérément besoin. C'était égoïste, elle le savait, mais...
« Sœur Alessandra, j'ai des responsabilités ici. Désolée, mais je ne peux pas abandonner mes protégés. »
À cet instant précis, le père de Nietzsche était entré dans la pièce. Stupéfait, il avait regardé sœur Alessandra avec des yeux ronds.
« Que se passe-t-il encore ?»«
Howard, »
avait dit la mère de Nietzsche en se levant,
« je te présente la sœur de la lumière, Alessandra. Elle est venue pour... »«
Non, je ne permettrai pas ça, tu m'entends ? Nietzsche est notre fille, et les sœurs ne l'auront pas. »
Sœur Alessandra s'était levée aussi.
« Je vous en prie, dites à votre mari de sortir. Cette affaire ne le concerne pas. »«
Pardon, c'est ma fille. Vous ne me l'enlèverez pas. »
Howard avait avancé d'un pas pour saisir la main que la jeune fille lui tendait. Alessandra avait simplement braqué un index sur lui. Un éclair avait jailli, le frappant et le propulsant en arrière jusqu'à ce qu'il percute le mur. Le souffle coupé, Howard s'était affaissé, une main pressée sur son cœur. Nietzsche avait voulu courir vers lui, mais la sœur l'en avait empêché en la retenant par un bras.
« Howard !»
avait lâché la mère de Nietzsche.
« L'éducation de notre fille ne regarde que moi. Souviens-toi, quand notre mariage fut arrangé par nos familles, tu as juré de me laisser toute l'autorité parentale si le Créateur nous donnait une fille née avec le don, comme moi. Aujourd'hui, je suis sûr qu'il veut que Nietzsche aille vivre au Palais des Prophètes. Avec les sœurs, elle apprendra à lire, à écrire et à utiliser son don pour le bien des autres. Tu dois tenir ta parole, Howard. D'ailleurs, je suis sûr qu'un travail urgent t'attend à la fabrique ou au magasin. »
Le père de Nietzsche s'était relevé, puis il avait massé le poing douloureux sur sa poitrine. Les bras retombant le long du corps, il s'était dirigé vers la porte. Avant de sortir, il avait croisé le regard de sa fille. À travers un rideau de larmes, Nietzsche avait vu briller dans ses yeux les étincelles dont elle regrettait la disparition depuis tant d'années. Mais il était sorti, refermant la porte derrière lui. Sœur Alessandra avait déclaré que Nietzsche et elle feraient mieux de partir au plus vite, et qu'il était préférable que la jeune fille ne revoie pas son père pour le moment. Mais si elle se montrait obéissante, quand elle aurait appris à lire, à écrire et à maîtriser son don, elle pourrait de nouveau lui rendre de courtes visites. Au Palais des Prophètes, Nietzsche avait appris à lire, à écrire, à utiliser son don, et à maîtriser tout ce qu'on lui demandait de maîtriser. Bref, elle avait fait tout ce qu'on attendait d'elle, se révélant une novice extraordinairement studieuse et altruiste. Bien entendu, sœur Alessandra avait oublié sa promesse. Très mécontente quand Nietzsche la lui avait rappelée, elle s'était empressée de trouver d'autres conditions à remplir avant que la future sœur de la lumière puisse retrouver sa famille. Des années après son arrivée au palais, Nietzsche avait revu le frère Narev par hasard, car il y travaillait désormais comme garçon d'écurie. Avec un petit sourire, le regard rivé sur elle, il lui avait confié être venu au palais en s'inspirant de son exemple, parce qu'il voulait vivre assez longtemps pour voir le nouvel ordre régner sur le monde. Nietzsche s'était étonné qu'il se contente d'une occupation subalterne. Travailler pour les sœurs, avait-il répondu, lui semblait plus moral que de louer ses bras à un exploiteur du peuple. Si Nietzsche voulait parler de lui et de la confrérie aux sœurs, avait-il ajouté, il n'y voyait aucun inconvénient. En revanche, pouvait-elle ne pas mentionner qu'il avait le don afin qu'il reste tranquille dans son coin aux écuries? Désireux de servir le Créateur à sa façon, il serait obligé de partir si les sœurs découvraient la vérité et voulaient qu'il collabore à leurs activités magiques. Nietzsche avait gardé le secret. Moins par loyauté que parce qu'elle était trop occupée pour se soucier encore du frère Narev et de sa confrérie. Le voyant très rarement, puisqu'elle ne fréquentait pas beaucoup les écuries, elle n'avait guère repensé à lui. Désormais, il n'avait plus à ses yeux l'importance qu'elle lui accordait dans son enfance, et au palais on la chargeait de missions qui l'accaparaient, des tâches honorables semblables à celles dont elle s'acquittait jadis pour la confrérie. Bien des années plus tard, elle avait découvert les véritables raisons qui motivaient l'installation du frère Narev au palais. Sœur Alessandra l'accablant de travail, 27 ans étaient passés sans que Nietzsche, toujours en apprentissage, ait trouvé le temps de retourner chez elle. Elle avait quand même fini par le faire, pour les funérailles de son père. Une lettre de sa mère l'avait informée que sa santé déclinait. Elle était aussitôt partie en compagnie de sœur Alessandra, mais à son arrivée, Howard avait cessé de vivre. Depuis des semaines, avait expliqué son épouse, il la suppliait de prévenir Nietzsche. Certaine qu'il se rétablirait, elle n'en avait rien fait. Pourquoi aurait-elle dérangé une future sœur de la lumière pour de banales avanies de santé? Jusqu'à la fin, Howard n'avait eu qu'une requête, revoir sa fille avant de quitter ce monde. Une étrange lubie pour un homme qui ne s'était jamais intéressé aux autres, à se demander ce qui lui avait pris. Il était mort seul, pendant que sa femme se consacrait à secourir les victimes d'un univers impitoyable. À l'époque, Nietzsche avait 40 ans, mais elle en paraissait 15 ou 16 grâce au sort qui ralentissait le temps pour les résidents du palais des prophètes. Abusée par son apparence, sa mère avait insisté pour qu'elle porte une robe bariolée. Après tout, leur retrouvaille n'avait pas lieu en une occasion si triste que ça. Nietzsche était resté très longtemps debout devant le cadavre, le cœur serré, parce qu'elle ne reverrait plus jamais les yeux si mélancoliques de son père. Pour la première fois depuis des années, le chagrin avait réveillé son âme anesthésiée. Ressentir de nouveau quelque chose lui avait fait du bien, même si ça n'avait rien de joyeux. Alors qu'elle regardait le visage cireux d'Howard, sœur Alessandra avait soufflé qu'elle était désolée de l'avoir arraché à sa famille. Mais au cours de sa longue existence, elle n'avait jamais rencontré une femme dotée d'un si grand pouvoir, et ce présent du Créateur ne devait pas être gaspillé. Nietzsche avait acquiescé. Puisqu'elle avait le don, il fallait qu'elle le mette au service des nécessiteux. Au palais des prophètes, elle avait la réputation d'être la novice la plus dévouée qu'on eût jamais vue. Tout le monde la louangeait et on conseillait aux étudiantes plus jeunes de prendre exemple sur elle. La dame abbesse en personne l'avait félicitée. Nietzsche entendait à peine ses compliments. Être meilleure que les autres revenait à commettre une injustice. Hélas, elle ne parvenait pas à se débarrasser du perfectionnisme hérité de son père. Le poison qui lui avait légué coulait dans ses veines et influençait tous ses actes. Plus elle se montrait modeste, altruiste et pleine de compassion, plus cela confirmait sa supériorité et donc sa perversité fondamentale. Bref, elle était une mauvaise personne et ne pouvait rien y changer. Essaie de ne pas te souvenir de lui tel qu'il est aujourd'hui, avait dit sœur Alessandra tandis qu'elle veillait le corps. Pense à lui quand il était vivant.
C'est impossible, avait répondu Nietzsche, parce que je ne l'ai jamais connu lorsqu'il était de ce monde.
La mère de Nietzsche avait géré les affaires de Ward avec ses amis de la confrérie. Dans des lettres au ton enjoué, elle annonçait qu'elle avait engagé beaucoup de pères de famille depuis longtemps privés d'emploi. Avec la puissance financière de l'entreprise, ce n'était pas gênant, même si ces hommes manquaient un peu d'expérience. Enfin, l'argent mal acquis allait profiter à la communauté. Au fond, la mort de Ward était une sorte de bénédiction, puisqu'elle permettait à des déshérités d'obtenir enfin l'aide qu'ils méritaient. À l'évidence, cela faisait partie des voies impénétrables du Créateur. Pour verser des salaires à une pléthore d'employés, la nouvelle direction avait dû augmenter considérablement le prix des produits. Inquiet, beaucoup de collaborateurs de Ward avaient quitté l'affaire. La mère de Nietzsche s'en était réjouie parce qu'il s'était surtout acharné à lui mettre des bâtons dans les roues. Très vite, les commandes prenant du retard, les fournisseurs avaient demandé à être payés avant de livrer les matières premières. Ces nouveaux employés jugeant que les critères de qualité étaient impossibles à tenir, leur patronne avait résolu de ne plus garantir les armes et les armures. Après tout, les ouvriers faisaient de leur mieux et cela seul comptait. Pour équilibrer les comptes, il avait fallu revendre le laminoir. Voyant que l'affaire battait de l'aile, de gros clients avaient cessé de passer commande. Plutôt contente d'être débarrassée de pareils rustres, la mère de Nietzsche était allée implorer le duc de faire promulguer une loi qui rendrait obligatoire une répartition équitable du marché entre toutes les armureries. Mais avec la nonchalance administrative bien connue, la législation salvatrice était restée coincée sous une pile de documents dans un bureau anonyme. Les rares clients encore fidèles omettaient de payer leurs factures, mais ils promettaient de le faire un jour ou l'autre. Avec de plus en plus de retard, on leur expédiait quand même leurs produits. 6 mois après la mort d'Howard, la mère de Nietzsche avait dû fermer l'affaire. Le patrimoine que son mari avait mis une vie entière à se constituer était parti en fumée. Les ouvriers spécialisés jadis engagés par Howard, car il en restait quelques-uns, avaient quitté la ville pour tenter de trouver de l'ouvrage ailleurs. Ceux qui étaient restés avaient trouvé des postes bien au-dessous de leurs qualifications. Les pères de famille engagés par la mère de Nietzsche s'étaient de nouveau retrouvés à la rue. Toujours compatissante, elle avait fait avec ses amis de la confrérie le tour de toutes les entreprises locales en demandant qu'on les embauche. Certains patrons avaient fait des efforts, mais la plupart n'étaient pas en mesure d'augmenter sérieusement leurs effectifs. Depuis des décennies, l'armurerie était le plus gros donneur d'ouvrages de la région, et elle faisait également vivre un grand nombre de sous-traitants. Beaucoup de transporteurs, fournisseurs ou revendeurs qui dépendaient de ses commandes avaient été condamnés à mort par sa faillite. Par ricochet, tous les commerçants de la ville avaient perdu de la clientèle. Eux aussi s'étaient résignés à licencier leurs employés. La mère de Nietzsche était allée voir le duc pour lui demander d'intervenir auprès du roi. Quelques jours plus tard, on lui avait fait savoir que le souverain réfléchissait au problème. Après le départ d'un grand nombre de gens vers d'autres villes où ils espéraient trouver du travail, beaucoup de bâtiments étaient vides. Encouragés par la confrérie, les sans-abri les avaient investis. Très vite, ces quartiers étaient devenus des coupes-gorges et les femmes qui s'y aventuraient le regrettaient toujours. Disposant d'un stock d'armes qu'elles ne pouvaient plus vendre, la mère de Nietzsche les avait fait distribuer aux pauvres pour qu'ils se défendent. Malgré ses efforts, la criminalité avait continué d'augmenter. Parce qu'elle était une bienfaitrice réputée et en hommage au service que son mari avait rendu au gouverneur, le roi avait autorisé la veuve d'Howard à rester dans sa maison avec une équipe de serviteurs réduite. Elle avait continué à œuvrer pour la confrérie, acharnée à réparer toutes les injustices responsables de la faillite de l'armurerie. Refusant de baisser les bras, elle espérait toujours ouvrir l'affaire et embaucher de braves gens. Impressionné par son sens moral, le roi lui avait décerné une médaille d'argent. Dans ses lettres, la mère de Nietzsche répétait souvent qu'il la tenait pour la seule incarnation d'un esprit du bien qu'il eut l'occasion de rencontrer en ce monde. D'autres honneurs et récompenses avaient au fil des années renforcé la réputation de sainte de la veuve d'Howard. 18 ans après la disparition de son père, quand sa mère avait à son tour quitté le monde, Nietzsche ressemblait toujours à une jeune femme de moins de 20 ans.
Pour assister aux funérailles, elle voulait porter une magnifique robe noire, mais la dame abbesse avait refusé d'accepter à sa requête, qu'elle jugeait insensée pour une novice. De retour chez elle, Nietzsche était allé voir le tailleur du roi. D'accord pour lui confectionner la plus belle robe noire qui eût jamais existé, il s'était rembruni quand elle lui avait annoncé que sa bourse était vide. Puis cet homme au double menton, aux oreilles souillées de cérumen, aux longs ongles jaunâtres et au rictus lubrique, avait déclaré qu'on pouvait toujours trouver des arrangements quand on était de bonne volonté. Nietzsche avait compris le message et fait ce qu'il fallait. Aux obsèques de sa mère, elle portait une superbe robe noire. Jusqu'à son dernier souffle, la défunte s'était consacrée à aider les autres. Pourtant, sa fille n'avait pas regretté un instant de ne plus jamais pouvoir la regarder dans les yeux, et son âme était restée aussi vide et insensible que d'habitude. Décidément, elle était une mauvaise personne. Pour la première fois de sa vie, avait-elle découvert, cette idée ne la dérangeait plus. À partir de ce jour, elle n'avait plus porté que du noir. 133 ans plus tard, accoudée à la balustrade d'une galerie au cœur du palais des prophètes, Nietzsche avait plongé le regard dans des yeux où brillaient des étincelles semblables à celles qui dansaient dans ceux de son père. Mais, chez Richard Seifer, c'était plutôt des étoiles dont la lueur aurait pu l'aveugler. Nietzsche ignorait toujours de quoi il s'agissait. Pourtant, une chose était certaine. Cela faisait toute la différence entre la vie et la mort, et elle devait absolument détruire Richard. Et maintenant, elle savait comment s'y prendre. Quand elle était enfant, pourquoi nul n'avait-il jamais songé à faire montre d'une telle compassion avec son père ?